Et vous écoutez France Culture. Un loup dans la jungle, voilà ce que je suis. Un inadapté, un solitaire, avec la rage au ventre parce qu'on m'a toujours méprisé. Nan au Rousseau. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit ce soir l'écrivain et scénariste Nano Rousseau qui publie chez Buchet-Chastel des coccinelles dans des noyaux de cerises, la confession d'un braqueur serial killer aussi terne d'allure que rusé et violent, une violence radicale portée par un style sec, saillant et sans phare. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre mis ce soir sous l'invocation du roman noir, de la violence et du mystère, puisque bonsoir Nano Rousseau.
Oui, bonsoir.
Votre personnage François est quand même un personnage mystérieux, c'est un homme à secret, à double fond, triple fond.
Vous savez, tous les tueurs, généralement les tueurs, sont des hommes gris ordinaires, qui passent inaperçus, hein, c'est leur allure. Donc c'est pour ça que j'ai fait un livret à liste, moi, pour essayer de faire comprendre aux gens que ça n'a rien à voir avec le cinéma et qu'ils peuvent être très très surpris sur l'allure. Nature, vous regardez par exemple un mec comme Fourniret, vous lui donneriez le bon Dieu sans confession, avec sa petite barbe, son petit gilet d'ouvrier, tout ça, hein, et il a quand même tué plus de 17 jeunes femmes, etc. Donc voilà.
Très bien, bah avec vous ce soir, donc on va aller au fond, tenter d'aller au maximum, d'éclaircir au maximum le mystère singulier donc de ce personnage qui est le héros des coccinelles dans des noyaux de cerises, François. Bonsoir Élise Lépine.
Bonsoir François.
Vous êtes avec moi ce soir pour justement, vous aussi, avec votre regard et votre intelligence du roman noir, tenter de percer le mystère de François, en tout cas d'interviewer et d'interroger Nan au Rousseau, qui est mauvais genre. Ça, c'est vraiment, alors là, ça vous convient tout à fait.
Ah ben, moi, je suis très content. Hein, voilà. J'espère que je vais rester mauvais genre jusqu'au bout.
Très bien, ben, on vous le souhaite également. Et on nous le souhaite également. Mais avant cela, bien évidemment, l'encyclopédie pratique des mauvais genres avec vous, ma chère Céline. Et on l'ouvre à quelle lettre?
Eh bien, on peut l'ouvrir à la lettre F comme Fur, Galafur.
Moi, j'aime bien les masques, mais ce n'est pas un mot nouveau. Parce qu'en fait, une dominatrice est très souvent masquée. Donc, et en particulier, je suis souvent masquée. Évidemment, le maquillage est aussi un masque, mais j'aime beaucoup moi, les masques en plumes, les masques en paillettes, en métal. Bon, on a l'impression d'être un peu à Venise. Porter un masque, c'est s'évader de soi et cultiver le pouvoir érotique du mystère. Loup de dentelle, masque de plume, comme on l'emporte à Venise, dissimule la partie la plus expressive de soi en préservant l'anonymat. Catwoman, oiseau, loup-garou, bulldog, cheval, cochon, le masque d'animal fonctionne comme un avatar chez une personne qui donne corps à sa nature profonde et modifie son comportement. Le chien ou la chienne ne s'exprime plus qu'en aboyant et le cochon grogne.
Le dictionnaire du BDSM est sorti juste avant les fêtes de fin d'année. Un best-seller, ai-je cru comprendre, qui a été placé sous de nombreux sapins de Noël. Et en effet, joli cadeau que ces 320 pages consacrées au monde du masochisme. BDSM, pour être plus précise, bondage, discipline, domination, soumission. Ai-je vraiment besoin de rappeler aux auditeurs avertis de mauvais genre? Un dictionnaire illustré de 250 entrées où l'on trouvera aussi bien les grands acteurs de ce monde, à savoir les dominatrices célèbres, les pratiques, bien sûr, leur évolution, avec même l'arrivée de mots que l'on ne trouve pas encore dans les dictionnaires grand public. Je pense par exemple aux zombies, aux morts de faim, ces masochistes frustrés qui errent dans les soirées en rêvant d'une maîtresse qui voudrait bien les prendre en main. Il faut dire que pour écrire ce dictionnaire, il y a une femme de poigne, Galafur, écrivaine et dominatrice qui sait de quoi elle parle. On lui doit des manuels pratiques du type « Oser tout savoir sur le SM », des films aussi réalisés avec Pierre Bourjade, L'écrivain et son chien, ou Baudelaire promène Médor. Bref, autant dire que Galafur a pu puiser dans son expérience pour écrire ce dictionnaire.
Infiniment. Toutes les entrées, les textes, etc. viennent de mon expérience personnelle et de mes conclusions. L'attente, il y a une entrée attente, ou la torture de l'espérance. Eh bien, est-ce que ce n'est pas mon expérience d'avoir, disons, provoqué l'attente chez les personnes que j'ai pu dominer ou que je domine encore ou... Et la torture de l'espérance, est-ce que je ne l'ai pas suffisamment expérimenté, justement, la torture de l'espérance chez les soumis pour, disons, en jouir et en jouer infiniment. Donc oui, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments viennent de mon expérience. Et je pense que cela profitera également beaucoup à des jeunes lecteurs, et il y en a déjà qui m'ont, disons, contacté pour me remercier, parce que l'attente, par exemple, aujourd'hui, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Donc pour eux, ben, c'est un jeu de rôle, allez hop, on y va, il y a de la douleur, il y a du plaisir, il y a des cordes, mais ils ne mesurent pas du tout l'importance du silence, des temps morts, du fait qu'il faut être dans le désir, qu'il faut qu'il y ait des moments d'immobilité longue pour pouvoir s'évader de soi, rêver, et atteindre en fait un autre degré de vie, une sorte de transe légère. Quand on est nu à genoux, par exemple, avec les yeux bandés devant une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et qu'elle vous fait attendre dans une pièce un peu glaciale, forcément, on s'évade de soi.
Et cette torture de l'espérance, alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Alors, la torture de l'espérance, je pense que Bernard Montorgueil, avec ses dessins, ses textes également, a tout à fait expérimenté la torture de l'espérance. C'est en fait espérer toujours et ne jamais avoir ce pour quoi on languit. Donc c'est on peut promettre à quelqu'un, je ne sais pas, une récompense ou une séance qui ne vient pas, et plus le temps passe et plus on est torturé à force d'espérer. Et en fait, plus le poteau d'arrivée se rapproche et plus il s'éloigne. Donc c'est ça, la torture de l'espérance.
Le dictionnaire du BDSM est sorti aux éditions de la Musardine et c'est l'écrivaine et dominatrice Galafur qui est l'auteur de cet ouvrage. 320 pages, 250 entrées, des illustrations particulièrement bien choisies. On retrouve avec plaisir Gilles Berquet, Marie Morel, Hippolyte Engen, Naomio Arukawa et ses face-sitting, Sadie von Paris, bref, du joli monde. Et pour en savoir plus sur l'univers de Galafur, www.galafur.free.fr/.
Merci Céline pour cette entrée Galafur, donc de l'encyclopédie pratique des mauvais gens. Jusqu'à présent, Gala c'était Dali, et bien maintenant c'est Fur également. Et c'est cette encyclopédie BDSM, donc à la Musardine. Nano Rousseau, alors question, oui. Comment réagissez-vous d'abord au propos de cette dominatrice, et puis que dans votre univers personnel, le BDSM, est-ce qu'il a une place, et si oui, laquelle?
Non, moi je suis le type ordinaire, voilà, moi c'est levrette et puis c'est tout. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça parce que c'est la fonction un peu, je dirais, thérapeutique de tous ces ouvrages et de tous ces gens qui parlent de ça. C'est-à-dire que les gens ont besoin de libération au niveau sexuel, bien sûr. Il a été remarqué, c'est ancien, mais enfin c'est sur le temps historique, c'est une heure derrière. Ils ont fait une enquête dans l'État de New York sur la libération sexuelle, et pendant toute la libération sexuelle de 66 à 70, la criminalité sur les délits sexuels avait baissé de 30%. Vous voyez, donc c'est très 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 bon. Dès l'instant qu'on libère la parole, le geste à ce niveau-là, c'était très bon. Moi, c'est la fonction aussi thérapeutique du roman noir, hein, dans la société contemporaine, la catharsis, la fameuse catharsis. Mmh.
C'est-à-dire raconter, se purger, Céline. Voilà. Est-ce que la dimension thérapeutique d'ailleurs existe chez... Est-ce que Galafur intègre la thérapie?
Ah, ça, je ne peux pas parler au nom de Galafur. Je n'ai pas le souvenir d'avoir trouvé une entrée autour de la thérapie. Mais mon expérience, en tout cas, d'intervieweur, de dominatrice, m'a fait souvent rencontrer ce terme-là, en effet, de thérapie. Et puis, de plaisir. Ne nions pas aussi le plaisir qu'il peut y avoir dans des pratiques dans lequel certains s'épanouissent avec art.
Ben oui, non, puis ça, je pense que ça éponge les névroses, excusez-moi du terme éponger. Mais les gens qui font ça chez eux tranquillement, ils en ont tout le droit, et tant mieux pour eux. Et quand ils sortent de ça, ils sont tranquilles après. Je pense pas que c'est des gens qui agressent sexuellement quelqu'un.
Non, mais je crois qu'il y a une fonction de l'imaginaire aussi, de libération, cette torture de l'espérance et cette ouverture sur des mondes parallèles presque, est vraiment à tenir en tout cas en compte, et qu'on découvre dans ce dictionnaire qui est très riche et que je suis bien heureuse de vous offrir.
Oui. Oui, mais j'ai des amis, moi, Jean Streff, je ne sais pas si vous connaissez.
Ah, bien sûr.
C'est vraiment un ami à moi. Et puis ma chef-op pour mes films, Elisabeth Prouveau aussi, fait des photos comme ça de libération du corps qui sont extraordinaires.
On les a souvent interviewés ici à Mauvais Genre.
Ah, sont des amis de la maison, si j'ose ainsi m'exprimer.
Ah bah extra, voilà. Je savais pas.
Élise Lépine, ou réaction?
Oh, sur la thérapie, oui, bah, elle disait qu'elle faisait attendre des gens dans des pièces glacées, ils doivent avoir le rhume, hein, donc en termes de thérapie, je pense qu'ils doivent aussi.
J'aime bien le soin que vous avez des clients.
Parce que moi, j'ai la phobie du froid, je détesterais ça, je crois.
Très bien, bon bah écoute, on intègre ça au dossier.
Ça m'a beaucoup inquiété, ce passage.
Merci Céline, et le temps est venu maintenant pour nous, eh bien, de nous intéresser de plus près à Nan Orousseau, notre invitée de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Dead Heat par Raimé, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist Mauvais Genre de ce soir sur France Culture. Alors Nan Orousseau, vous êtes avec nous pour ce livre qui a quand même un titre, alors on en saura plus au cours de l'émission, mais assez extraordinaire, qui fait vraiment pas penser à la noirceur qui est celle intrinsèque de votre roman. Des coccinelles dans des noyaux de cerise avec son joli lettrage rose. C'est quand même plutôt un titre de conte pour enfants.
Bah écoutez, moi je voulais m'accrocher à la locomotive de Pancol, donc je me suis dit, il faut que je trouve un titre un peu à la Pancol, quoi. Les gens adorent les petites bêtes et puis les cerises. Donc, donc je me suis dit, oh là, moi j'essaye de vendre un peu parce qu'il faut bien que je gagne ma croûte. Hein. Donc, mais le titre correspond à quelque chose dans le livre, bien sûr. Hein. Et puis aussi, je suis pour le renfort sémantique. Je trouve que les textos, là, t'es où, tu fais quoi avec des cas et tout, je supporte pas. Et j'oblige ma fille, moi, à m'écrire des phrases complètes quand elle me fait des SMS. Et donc, j'aimerais bien que les gens, quand ils demandent le livre, essaye de dire le titre entier. Ça le fera pas, hein, ça va pas le faire. Ils vont dire, oui, vous savez, des coccinelles, là, de comment ils s'appellent déjà, voilà. Mais bon, au moins, ils essayeront.
Dans les librairies. Est-ce que vous avez coccinelles ou est-ce que vous avez des noyaux?
Voilà. Hein, vous avez le truc avec les cerises, là.
Élise Lépine, c'est vrai, quand on ouvre l'enveloppe dans laquelle ce livre nous est adressé, qu'on l'extrait de son enveloppe et qu'on voit des coccinelles dans des noyaux de cerises, évidemment, si on a vu le nom de l'auteur, on peut quand même se douter de quelque chose, mais sinon, c'est
autre
plutôt
chose qu'à des petites coccinelles, à des bêtes à bon Dieu, oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que le titre est très intéressant et puis très, très poétique. Mais il y a un écho dans le livre, pas seulement dans ce que fait le personnage, mais aussi dans cette étrangeté de son esprit, cette forme de
singularité.
Singularité par rapport au reste du monde.
Alors tout cela, on va le découvrir tout au long de l'émission, mais avant cela, on va vous découvrir, vous, Nan Orousseau, qu'on peut dire que l'écriture vous est arrivée comment? Comme une forme de rédemption après une enfance, une adolescence extrêmement violente, une forme de manière de clarifier, de faire le point sur ce que vous étiez. On peut d'ailleurs parler de vos débuts dans la vie, à Paris, écoutez, quartier Charonne, quartier Charogne, comme vous l'avez appelé dans un
livre. C'est ce que je disais quand j'étais gamin, quand les flics m'arrêtaient, j'avais pas compris que c'était Charogne, je croyais que c'était Charogne. Vous voyez, je faisais un lapsus déjà assez intéressant, et quand on me disait, non, je disais pas mon adresse, je disais quartier Charogne, voilà. Mais bon, cela dit, j'ai commencé beaucoup à lire des BD, moi. J'ai commencé par les petites BD Cato, la Blake, Kiwi, tout ça. J'étais un fou de ça. Donc c'était une façon aussi de sortir de mon milieu familial qui était, on était 6 gosses dans 30 mètres carrés, et on dormait les 6 enfants dans une seule chambre qui faisait 9 mètres carrés, déjà la taille d'une cellule. Et donc j'avais besoin de m'évader, donc j'ai commencé par la BD, j'étais un fou de BD, vraiment j'en avais des tonnes, tous les gars
de comics.
Les BD donc Kiwi, tout ça, le petit Duc, je sais pas si vous connaissez le petit Duc à la fin,
oui,
dans cet univers de Rocher et tout, avec son chien qui, parce que ça changeait de dessinateur, et il se gourait toujours sur le nom du chien, ça m'énervait. Mais voilà, ces trucs là qu'est-ce que je lisais, Mandrake. Génial, Mandrake, avec Narda, avec Lothar, le grand noir là, hein, son ombre très forte, et des choses comme ça. Et ensuite, j'ai lu en prison, beaucoup, énormément en prison, parce que j'ai fait la première mutinerie à Fleury pour demander justement l'accès aux livres de poche. Magnifique. Parce que vous savez qu'on avait des bibliothèques où on lisait que Cézebon, ils nous prenaient pour des chiens sans collier.
Hein. C'est ça, voilà. Ah, oui, une lecture édifiante et rédemptrice.
Ils essayaient de nous redresser avec des conneries. Et donc, voilà, nous, on a fait une mutinerie au D2, la première, hein, le 1er mai 69, donc après 68, c'est un peu symbolique. Et on a demandé les livres de poche, on l'a obtenu. Bon, ils nous ont mis Mitard et tout, mais on a obtenu. Et à partir de là, j'ai commandé Céline, tout ça, parce que j'avais une envie de lire qui était démente. C'est une lecture d'évasion, voilà, c'est pas une lecture de rédemption. C'est une évasion, voilà. Je m'évadais par les livres et vraiment, on s'évade. C'est-à-dire, l'esprit est complètement ailleurs, vous n'êtes plus dans la cellule. Et voilà, et vous passez votre temps dans des univers de romanciers. J'ai été fasciné et ensuite, je suis venu à l'écriture grâce à un éducateur, Monsieur Plisson, qui, lui, a fait un travail avec moi extraordinaire pendant 3 ans, puisque j'ai fait 3 ans de préventive à Fleury, et qui m'a remis dans les rails sur les études et tout ça, de façon tellement maligne, parce que, vous savez, quand nous, on était des voyous brûlés à vif, les matons rentraient à 4 dans la cellule, hein. Mais lui rentrait tout seul, avec sa veste, et il me parlait, il m'appelait Nan, il me tutoyait, et il a fait un super boulot de dingue, sans que je sente rien. Et il m'a refait reprendre mes études et tout.
Parce que là, on parle de Monsieur Plisson, de la première révolte à Fleury en 1969 et de vos 3 ans de préventive, mais il faut peut-être expliquer comment vous en êtes arrivé à Fleury. C'est-à-dire qu'au départ, il y a la vie dans la rue, il y a la fréquentation du milieu dur, et puis il y a vos premiers braquages, il y a vos...
Bah, vous savez, c'était le 20e, était un quartier criminogène, hein. Moi, je vous dis, j'ai trouvé un revolver en sortant de chez moi dans le caniveau un matin en allant à l'école, hein. Il y avait des cavales partout dans les rues. Tous les bars étaient pleins de macros et de braqueurs, hein. C'était la rue d'Avron, la rue des Maraîchers, la porte de Montreuil. Donc les jeunes étaient... c'est des milieux hyper criminogènes, quoi. C'est-à-dire tous mes copains étaient des petites frappes de la porte de Montreuil. J'ai beaucoup fréquenté les Manouches parce que j'avais un ami Manouche qui vivait dans les caravanes. À l'époque, il n'y avait pas le périph', c'était la zone. Donc, et avec les Manouches, bah, bien sûr, hein, c'était des gens qui étaient emmenés à l'école par les flics. Moi, mon ami Chtoro, il venait tard.
C'était scolarisé, manu militaire.
Bah, c'était les flics qui l'amenaient dans la classe. Et il restait 2 jours, il se retirait, il voulait pas aller chez les gachos. Même chez moi, il mangeait assis par terre, moi je l'invitais. Il mangeait pas à table des gachos. Hein. Donc vous voyez, des garçons comme ça, avec bien sûr le petit neveu de Django Reinhardt qui nous jouait de la guitare sur la zone auprès des feux de bois et tout. C'était vraiment, j'étais voilà le premier des Mohicans un peu. Hein. Donc à fréquenter tous ces gars-là, bah, on est vite monté au
CRAS. Parce qu'il représentait pour vous une forme d'idéal, une sorte de chevalerie
Oh non, pas du tout, non.
Vous en êtes venu tout naturel.
Tout naturellement, comme des Indiens qui se retrouvent, quoi. Je sais pas d'où ça me vient, moi, tous ces trucs-là. Hein. Mes frères et sœurs n'étaient pas du tout comme ça. Hein. Donc moi, j'ai tout de suite aimé ce genre de vie du Manouche, là, comme ça, à vivre avec les feux de bois, la zone, et puis à errer, et puis à traîner la nuit dans les rues. Vous savez, c'est fascinant. Hein. Quand on est jeune, moi, je sautais par la fenêtre. Hein. Mon père me cherchait avec sa mobilette, il me trouvait pas. Hein.
Votre père, qui était d'ailleurs quelqu'un de... violent, intenable.
Ah, mon père était fou, oui, avec des crises, comment on appelle ça, de délirium tremens. Hein. Donc il me cherchait partout avec sa mobilette, mais il me trouvait pas. Et moi j'aimais la rue, j'aimais le sirop des rues, comme on dit. Hein. J'aimais mes amis à cet âge-là. Hein. On aime ses amis, on était des gangs, quoi, des gangs du 20e.
Vous aimiez siroter ce que Robert Giraud appelait le vin des rues. Alors donc, bah, des quartiers qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est une Atlantide, c'est une époque engloutie. Ben, quand vous voyez aujourd'hui la rue de Charonne ou la porte de Montreuil et que vous avez connu celle des années 60, c'est tout à fait un autre monde.
Écoutez, rue d'Avron, ils ont cassé beaucoup de choses. Alors, non, ça n'a plus grand-chose à voir. Et puis, il n'y a plus de banditisme. Ça a été repoussé dans les banlieues et tout ça. La rue des Haies, ben, y a un peu de deal de shit, mais c'est tout. Et c'est bobo, quoi. C'est devenu bobo. Tout Paris, d'ailleurs. Hein. Nous, on a été expulsés du 20e. Ils ont expulsé beaucoup de pauvres. Hein. Ils ont repoussé tous les pauvres. C'est un château virtuel, un peu. C'est que des riches, mais bon, c'est comme ça.
C'est un des moments les plus traumatisants de votre enfance, quand votre mère a été
l'expulsion, ouais. Ouais. Ah ouais, vraiment. Et j'en fais encore des cauchemars. Franchement, même aujourd'hui, hein, c'est fou.
Ça s'est fait un matin, comme toujours, tôt le matin.
Ça s'est fait un matin à 5h, il n'y avait personne dans les rues, les flics sont rentrés chez nous, les 6 gosses dehors avec les cartables. Moi, j'ai été mis dans le fourgon parce que je me suis énervé, il y avait un fourgon de police. La chienne a été mise à la fourrière, on avait une petite chienne. Ma mère, mes frères et mes autres frères et sœurs ont été mis sur le trottoir sans relogement, avec toutes nos affaires sur le trottoir. Et moi, je me suis sauvé du fourgon et je me suis mis en cabale tout de suite. Ils ont pas réussi à me rattraper ce jour-là. Mais j'en fais encore des cauchemars. C'est fou. Ce qu'on peut marquer les gens par des choses comme ça. Voyez-vous, petit univers familial de misère, un peu à la Zola, effectivement, mais avec une mère qui nous adorait, un père, bien sûr, alcoolique et voilà, c'est vraiment un peu cliché, mais c'est la réalité.
Bah, oui, voilà. Hein. Ah, d'abord la réalité.
Mais on aimait notre famille. Moi, j'adorais mes frères et sœurs. J'aimais bien, je rentrais chez moi et tout ça quand même, malgré que je traînais. Et puis du jour au lendemain, tout ça a explosé. Et sans aide, il n'y avait pas d'assistante sociale, il n'y avait pas d'aide au logement, tout ça, ça n'existait pas à l'époque, rien du tout. Ma mère s'est retrouvée avec les gosses dans la rue, quoi. Vous voyez, c'était assez terrifiant. Hein. Voilà, mais bon.
Watching the leaves falling in, and it was something like a dream.
Time moves slow, le temps passe lentement, par Barbad Not Good. On verra que le temps non seulement passe lentement, mais qu'il peut également se geler et s'arrêter dans votre roman Nano Rousseau, des coccinelles dans des noyaux de cerise, qui paraît chez Bûcher. Chastel, Élise Lépine.
Mais moi, je connaissais pas votre histoire personnelle, Nano Rousseau. C'est vrai qu'on peut qu'être sidéré par cette violence dont vous parlez, qui est si proche finalement de notre époque. Hein. C'est vraiment... On est dans du Zola, comme vous disiez, et ça se ressent aussi un peu dans l'histoire de votre personnage dans Des coccinelles dans des noyaux de cerise. Il y a une grande violence aussi, dès le début de son histoire, dès son enfance.
Bah écoutez, moi je crois au déterminisme social déjà sur la criminalité, beaucoup, hein, pas sur toute la criminalité, mais sur une grosse partie de la criminalité, et au déterminisme familial aussi, et à l'action puissante de l'État sur le fait de créer du crime, hein, de faire des zones criminogènes, de faire des ghettos, et d'entretenir d'ailleurs ces zones criminogènes pour s'en servir, les mettre en premier plan quand il y a des affaires en col blanc qu'on cache derrière. Vous voyez, Strauss-Kahn n'a jamais fait un jour de prison à Lyon-Marie. Elle n'a pas fait un jour de tôle. L'autre, là, qui est Lagarde, elle ne fera jamais un jour de prison, etc. Et moi, pour deux braquages et un petit règlement de compte entre voyous, donc on n'attaquait personne d'autre que des voyous, eh bien, j'ai pris 6 ans de réclusion et un ami à moi a pris 12 ans. Vous voyez, donc cette injustice, elle était dite tout le temps dans le 20e entre les gens. Hein. Il ne faut pas croire, les gens se parlent et les voyous savent très bien tout ça. Cette injustice fondamentale. Donc moi, je suis monté au braco, déjà, on pourrait dire presque politiquement, carrément. Quoi. J'étais tellement révolté, je voulais pas devenir comme mon père, déjà ouvrier à gagner la misère et qu'on n'ait même pas à manger à la fin du mois.
Conducteur
déjà.
D'engin marqué par le stalag.
Oui, tout ça, évadé deux fois des stalags et puis alcoolique malheureusement, il s'est fait reprendre parce qu'il est tombé dans un wagon de vin. Le pauvre, et pour s'évader d'Allemagne, et bah, il était bourré par les émanations du pinard, et donc il est monté sur le wagon et ils l'ont arrêté dans une gare allemande plus loin. Parce qu'il était bourré et ivre en train de hurler sur le wagon. Ouais, mon père, il a pas de chance avec l'alcool. Et voilà. Donc des histoires comme ça. Donc après, toujours à répéter les mêmes salades le soir quand il était bourré à la maison. Donc voilà, il y a le côté quand même familial qui compte beaucoup dans la délinquance. Hein. C'est-à-dire le milieu est criminogène aussi de par le fait qu'on veut s'en sortir et qu'on veut pas rester comme ça. Alors comme il y avait à l'époque, vous savez qu'à 14 ans on devait travailler, moi il y avait pas d'issue. Hein. C'est-à-dire c'était obligatoire. Moi le prof de maths est venu voir mes parents en disant écoutez vraiment il est balèze en maths et tout, c'est dommage. Il faudrait qu'il continue des études. Mais mon père il a dit ah non nous on n'a pas de sous, faut qu'il travaille. Donc à 14 ans on était obligé de travailler. Et bien moi j'étais complètement, j'avais pas du tout la fibre ouvrière, mais alors pas du tout. J'étais déjà un rêveur et je préférais aller faire des casses et après le braquage, on est monté au braco assez rapidement. Voilà, je préférais ça. Et quelque part, maintenant aujourd'hui, je me dis que mon inconscient m'a poussé à aller en prison et à prendre une longue peine, justement pour réétudier, avoir le temps de penser et ne pas me laisser embarquer comme tous mes pauvres amis de l'époque qui sont aujourd'hui morts ou à la ramasse totale de devenir un pauvre gars au SMIC et tout ça. Et je pense que mon inconscient m'a poussé à faire toutes ces choses. Là, parce que j'avais déjà goûté à la prison très jeune. Moi, j'étais en centre de rééducation, le petit bagne de Savigny, tout ça. Vous savez, ils nous mettaient à 14 ans, ils nous mettaient déjà enfermés au mitard et tout ça, hein, avec les agressions sexuelles par les plus âgés et tout. Hein. Donc, j'avais déjà goûté à ça. Et je pense que mon inconscient a dû dire, c'est pas mauvais cette espèce d'isolement, parce que comme on était des voyous dangereux, on était isolés. Vous voyez, on n'était pas à 4 ou 5 par cellule. Moi, dès que je suis arrivé à Fleury, j'étais mis à l'isolement tout de suite. Je sortais seul en promenade, j'étais seul dans ma cellule 23 heures sur 24, je voyais jamais personne. On en souffrait, bien sûr. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, putain, ils m'ont coupé de toute la misère, déjà d'une. J'étais nourri, logé, blanchi. Hein, on était blanchi à l'époque. Hein. Ils ont coupé la buanderie sous des prétextes fallacieux de dire que les mecs allaient se pendre avec les draps. C'est des conneries. C'est pour le pognon. Mais donc, je pense que cet isolement, ces années de prison, j'ai vécu ça, moi, comme une épiphanie. C'est-à-dire, vraiment, ça m'a été d'une utilité. Vous savez, c'est toute la vie est comme ça. Soit on fait quelque chose de bien avec ce qu'on a, soit on en fait quelque chose de mal. Hein. Et donc moi j'en ai tiré vraiment le suc, l'essence, c'est-à-dire l'isolation. J'aurais pu en crever, hein. Les psychiatres disent qu'on devient fou dans cette isolation sensorielle à cet âge-là. Parce qu'ils nous mettaient au grand mitard spécial de Fleury, qui était pour adultes. Hein. On passait 45 jours tout seul dans un mitard. Je ne sais pas si vous voyez.
Aujourd'hui, ça existe encore ? La prison a évolué sur ce plan ?
Ça n'a pas évolué du tout. Non. Ils mettent plus. Je pense plus qu'ils mettent les jeunes au mitard de Fleury. Je pense plus. J'espère que non. Sauf s'ils font un truc grave. Hein. Je pense que... Parce que les mitards sont pleins aussi. Donc il faut bien... Nous, quand on a fait la mutinerie au D2 en 69, les mitards étaient pleins. Parce que toute la le D2 s'est révolté entièrement. On a mis le D2 à feu et à sang. Et donc, il n'y a plus de place dans les...
Tout ça pour lire.
Voilà. Et avoir 2 heures de promenade au lieu d'une. On les a eues.
Quand vous entendez parler aujourd'hui de radicalisation religieuse en milieu carcéral, comment vous réagissez ? Parce que j'imagine qu'à l'époque, c'était quand même exceptionnel, voire
Il n'y en avait pas. Non, c'était inexistant. Il n'y avait pas question de religion.
Il y avait un aumônier quand même. Il y avait monsieur l'aumônier.
Il se faisait virer des cellules. Personne n'était catho là-dedans. C'était que des petites frappes. Moi, je l'ai viré à l'os, il est venu me voir. Je lui ai dit, vous savez pas que Dieu est mort ? Il m'a dit, quoi ? Ben, je lui ai dit, vous n'avez pas lu Nietzsche ? Voilà, puis il est parti.
Nietzsche n'était pas encore lu dans les séminaires. Mais alors, vous avez quand même eu, Nano Rousseau, sur votre trajectoire, 2 anges gardiens, si vous me permettez cette expression. Le premier, c'était Jean-Patrick Manchette, puisque après, vous êtes quand même... Vous avez œuvré comme plombier, vous avez gagné votre vie comme plombier ouvrier. Vous dites que vous êtes capable de tout faire sur un chantier. Donc
je fais une maison entièrement. J'ai refait la maison de mon fils entièrement là en 4 ans. Je fais tout.
Donc Jean-Patrick Manchette qui était un de vos clients, premier ange gardien.
Voilà, j'ai réparé des radiateurs chez lui. Oui.
Et le deuxième, c'était Jean-Marc Roberts.
Ah, Jean-Marc Roberts, alors là, je le regretterais infiniment, parce que c'était un homme extraordinaire, vraiment, un éditeur comme on en... J'y croyais pas. Vous savez, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a ce mec-là ? C'est un homo ou quoi ? Et puis pas du tout. Après, il m'a raconté... Vous savez, il était chez Fayard, et Fayard, Durand, lui a dit « Écoute, il y a une place qui se libère chez Stock en tant qu'éditeur, il faut que tu la prennes. » Alors Jean-Marc, il était pas chaud d'être éditeur. Puis il a réfléchi, Durand l'a poussé, il a dit « Bon, d'accord. » Et il s'est dit « Je vais recevoir mes auteurs comme j'aurais toujours aimé être reçu. » Et donc moi, la première fois qu'il m'a reçu, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il est gentil comme ça, ce mec-là » D'habitude,
suspect.
Les éditeurs sont
louches,
un peu louches quand même. Et puis pas du tout. Après, il m'a raconté, je lui ai dit « Voilà. » Il m'a dit « Non, je te reçois comme je reçois tous mes auteurs, c'est-à-dire comme un roi ou une reine, parce qu'il a eu beaucoup de reines, hein, lui, hein, c'était un homme à femme. Et donc voilà, c'était un type extraordinaire, vraiment, vraiment.
Alors, 6 livres avec lui, ou avec tous les thèmes, votre histoire d'enfance, d'autobiographie, ouais. Et des questions plutôt étranges, des personnages un peu errants, un peu...
Bah moi, je suis plutôt un romancier, alors c'est lui qui me l'a demandé avant de mourir, la biographie, je voulais pas, moi, j'aime pas parler de moi, hein. Donc je préfère inventer des histoires et tout ça, hein, comme là, comme des coccinelles, ça c'est un pur roman, j'aime ça, voilà. Mais il m'a demandé ça, il a insisté, alors il m'a refusé 2 romans, parce que vous savez, il me donnait des avaloirs, on vit sur l'avaloir, hein, nous, pour voir comme nous, hein. Et il m'a refusé 2 romans, donc j'avais plus une thune, et puis à chaque fois il me disait, mais écoute, ben, moi j'attends, moi, tu me dis oui pour la biographie, et t'as ton chèque tout de suite, alors une fois, hein, puis à la troisième fois, j'ai dit, bon vas-y, vas-y, je te la fais, la biographie, donc je l'ai fait un peu là, à forcer, mais j'ai été aidé, hein, pour mettre en place la mémoire, hein, quand
ça
même, voilà, et donc je l'ai faite, voilà, je devais faire 3 tomes, j'en ai fait que 2 parce qu'il était mort, et j'ai dit à Carcassonne, je lui ai dit non, Manuel, moi je fais pas,
Carcassonne c'est l'éditeur de
c'est
Stock,
le nouvel éditeur voilà. Qui a repris, je lui ai dit non, je fais pas 2 autres tomes, alors il était pas content, il m'a dit oui, mais on t'a payé pour 3 livres, j'ai dit oui, mais je t'en fais 2 en 1, donc voilà, puis ça c'est.
Alors aujourd'hui, vous êtes chez Buchet-Chastel, comme l'éditeur d'Henri Miller, de Mesmero. Il n'y a pas que des bons garçons chez Buchet-Chastel.
Non. Puis Pascale Gauthier, elle est géniale, mon éditrice. Fallait le prendre, le bouquin. Hein. Il est fini quand
oui,
même.
Oui, on va en parler, là, justement. Donc,
la terre dans cet état, je viens à toi.
Super ce matin, j'ai rencontré Dieu. Il m'a toisé, n'a pas baissé les yeux. Devant les cités guerriers décharriés, il n'a même pas cherché à défiler.
Qui dirigeait de l'au-delà, je viens à toi.
Super ce matin, j'ai rencontré Dieu. J'ai vu l'enfer qui brillait dans ses yeux.
Super ce matin, j'ai rencontré Dieu. Faudrait que vous leur disiez, Nano Rousseau, que Dieu est mort.
Ben ouais, mais je l'essaye de le dire. J'incite tout le monde à lire le Zarathoustra de Nietzsche. Qui est bien quand même à ce niveau-là. Hein. Vous savez, il y a des formules terribles dans le Zarathoustra. On est d'autant moins possédé qu'on possède moins. Ça, c'est bien aussi. Mmh. Ou, voilà. Hein. Ou enfin, plus on possède, plus on est possédé, etc. Il était balèze quand même.
J'aurais quand même été petite souris pour voir la tête de l'aumônier quand vous avez cité Nietzsche ce matin. De l'Austélil. Alors, des coccinelles dans des noyaux de cerises. Donc, je nous répète, Élise Lépine, il ne s'agit pas d'un conte pour enfants, d'un livre bleu ciel, malgré des lettres roses et tendres, c'est tout à fait autre chose. On est dans la noirceur. Alors, c'est très noir déjà sur la première moitié du parcours, mais la deuxième en rajoute encore. Il y a un trésor de noirceur. Alors, racontez-nous un peu cette histoire.
Eh ben, pourquoi moi plutôt que l'auteur, voyons. Mais enfin, c'est une histoire qui m'a rendue à la fois très triste. J'ai lu des morceaux à voix haute, ce qui n'arrive quand même pas souvent quand on lit un livre. Il y a un style incroyable, hein. On a vraiment envie de savourer. Vous disiez tout à l'heure que vous avez envie que les gens prononcent le titre, mais je pense que les gens auront envie carrément de lire à haute voix des phrases entières, des paragraphes entiers, avec l'histoire de cet homme qui est né. Donc sa naissance est sidérante déjà, puisque sa mère était en mort cérébrale. Elle a été maintenue en vie parce qu'elle était enceinte de 3 mois. C'était une délinquante qui avait cambriolé quelqu'un et puis qui a été maintenue en vie jusqu'à ce qu'elle soit accouchée par césarienne et que votre personnage naisse dans la mort. Il vient du pays des morts, comme vous le dites, et puis il est porté par cette colère qui, maintenant on le comprend, vous anime vous-même. Hein. Il y a une vraie colère sociale dans ce livre.
Ah ben moi je suis en colère tout le temps, ça se voit pas, vous avez vu, je suis le type normal et tout. Moi je suis comme ça, je suis tranquille et tout, mais à l'intérieur je suis un pur volcan et un pur révolté et révolutionnaire. Mais maintenant je passe ça dans les écrits, alors vous savez on est 3 à écrire les livres, je sais pas, vous l'a pas dit peut-être, mais Nano Rousseau, on est 3, il y a le philosophe, ou je dirais le psycho-métaphysicien, le poète... Et le romancier. Alors, le psycho-métaphysicien, je le mets vraiment, c'est enfoui, c'est du sous-texte, hein, bien sûr. Le poète, le romancier lui donne de temps à autre sa parole, comme vous l'avez pu le constater, mais c'est le romancier qui contrôle toute la trame et toute l'histoire du livre. Je m'intéresse beaucoup au personnage, donc c'est ça, un roman pour moi c'est un personnage, c'est une vie, et il est écrit à la première personne, je me suis impliqué à fond dans le personnage. J'avais écrit une première version à la troisième personne. Je trouvais que ça manquait de réalité, donc je me suis dit, il faut que j'augmente le réalisme. Donc je me suis mis à la place de ce mec-là. Hein. Moi, je suis pas un tueur, hein, mais on est tous des criminels potentiels et des assassins potentiels. C'est connu, psychologiquement, on le sait. Et donc j'ai été chercher très, 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 très loin en moi les pires tendances. Hein. Je me suis vraiment identifié à ce type-là. J'ai trouvé ces tendances. D'ailleurs, c'est très bon. Hein. C'est une thérapie. Moi, quand j'écris mes 5 pages sur un bouquin comme ça, après, je suis un agneau pendant 2 jours. Hein. Il faut me promener par la main, par exemple.
La matière noire est expulsée.
Voilà. Et je pense que, justement, pour revenir à la fonction thérapeutique du roman noir et de la catharsis, je pense que j'incite beaucoup les gens à lire non seulement mon roman, mais du roman noir. Alors, hier, sur France Inter, il y a une nana qui a dit « Ah oui, mais le personnage est misogyne. » c'est vrai qu'il est misogyne, c'est une horreur, ce mec-là. Mais bon, c'est pas grave. Et en plus, je peux pas supporter comment il traite les femmes et tout ça. Mais... elle affronte ses propres peurs. Il faut savoir ça. Et en affrontant ses peurs, on grandit. Donc, c'est une femme qui veut pas grandir. Elle veut pas voir la réalité en face. Elle préfère lire les niaiseries dans Lévi ou des trucs comme ça. Ça les regarde. Non, moi, je veux pas les obliger à lire mon livre. Hein. Je suis plus là avec un calibre à aller voir les gens.
Ah bah non, quand même.
Hein, on est d'accord.
Alors, retournons Nano Rousseau à l'histoire. Donc, François, qui revient d'entre les morts, puisque sa mère toxicomane braquait un petit retraité. Le retraité lui loge une balle dans la tête. Elle est en état de coma. Elle est en agonie. Mais elle est enceinte. Elle est enceinte de ce héros que l'on maintient. Tient effectivement, comme vous l'aviez dit, Élise en vie, et qui naît comme ça, revenu d'entre les morts, qui naît d'une morte. Donc déjà un premier traumatisme, et puis après, donc évidemment, une enfance et une adolescence extrêmement chaotique, des combines étranges. Notamment, vous pouvez nous parler de cette combine qu'il avait avec un ami à lui. Là.
Les vols par ruse.
Ah,
oui, moi je peux la citer. Mais c'est dommage, on va dévoiler un peu. Mais bon, le vol par ruse est courant hein, chez les voyous. Et donc là, le vol par ruse, il est assez simple. Vous voyez, c'est des types. Lui fait ça avec un Roumain et ils observent quelqu'un de bien habillé, de riche, avec une grosse voiture dans un parking de supermarché et ils le repèrent et ils attendent qu'il revienne avec ses courses, avec sa sacoche bien sûr, avec tout ses cartes bleues, tout ça. Il monte dans sa voiture et le type dans son auto, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un mec qui est en train de trafiquer sa roue arrière gauche. Donc il redescend bien sûr. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et le Roumain lui dit ah bah moi prendre petite valve besoin pour moi. Voiture, l'autre dit non mais t'es malade ou quoi? Tu vas me rendre ma valve? Oui c'est quoi ce bordel? Et l'autre dit non garde des petites valves moi. Pendant qu'il traîne avec la valve et tout, l'autre le complice ouvre la portière droite tranquillement sans faire de bruit et arrache la sacoche et se casse. Et donc l'autre il traîne un peu, oui donne les valves, l'autre il dit tu vas me remettre la valve là et puis tu vas te barrer, ça suffit comme ça. C'est quoi cette histoire de valve? Finalement le mec il balance la valve très loin, le temps qu'il est à rechercher qu'ils sont dans sa voiture, tu vois les deux mecs qui sont loin avec la sacoche, voilà c'est un vol par russe classique, traditionnel.
Et c'est des scènes très drôles. Hein.
Voilà,
on rit pas tout au long du roman mais là c'est drôle.
Du roman, là c'est le côté picaresque
voilà,
drôle
ouais.
du roman. Elle était mal tombée avec moi. J'étais né chez les morts, et elle n'en savait rien de ma naissance dans un cadavre, comme une plante maléfique qu'on fait pousser dans une charogne pour en tirer les élixirs du diable. J'avais ça dans le sang, moi, la mort. Je pleurais jamais malgré mes brûlures. Elle attendait peut-être que je la questionne, que je lui parle. J'avais autre chose à penser qu'à ces conneries-là. Ses tapinages au bois de Vincennes quand elle avait 20 ans, son premier amour, son premier coup de couteau, son premier vol dans une cave, sa première tournante, c'était du lourd qui nous attendait, elle n'en savait rien. On entendait la pluie qui tombait drue sur le toit de la caravane, et elle qui chouinait, qui sanglotait. Fallait que je tienne malgré tout ça, malgré toute cette misère dans laquelle on s'était enfoncés tous les deux, comme des noyés, des asphyxiés de la société.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait dans des coccinelles, dans des noyaux de cerise de Nan Orusso. C'est vrai que ce personnage échoue, on peut le dire, dans cette caravane au milieu de la zone avec sa compagne singulière, qui est une rude vie, et qui est un personnage, un asphyxié de la société. C'est-à-dire que d'un côté, il a cette apparence, mais en définitive, derrière tout cela, il a tramé quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et le personnage se dévoile en seconde partie avec un sens de la ruse totalement machiavélique.
Donc c'est un rusé. Donc, vous savez, il y a une image très fausse qui est donnée des criminels en série. On en fait des espèces de génies qui sèment des cartes de tarot pour les flics. Bien souvent, dans les séries, les criminels en série sont des imbéciles. Hein, se font gauler par accumulation de conneries. Hein, on peut pas avoir un flic derrière chaque personne. En plus, ils sont gris. Hein, vous avez vu, on peut pas les traquer facilement, etc. Alors moi, j'ai fait un personnage à Alice. Hein, et il existe, hein, ce mec-là. Donc, qui est, pour une fois, un tueur en série malin. Ce qui est très rare. Hein, faut pas croire. Hein, c'est très rare. Et pour donner de la réalité encore plus, et puis l'histoire m'a plu, parce que vous savez, moi, je fréquente encore des amis de mon époque, hein, qui sont toujours sur les braquages, eux, qui font des ralouf et tout ça, hein. Donc j'en entends parler, bien sûr. Puis moi, je suis une éponge aujourd'hui. C'est-à-dire, j'écoute. Je dis plus rien, moi. J'écoute. Hein, on me raconte ci, on me raconte ça. Oh putain, il a fait ça. Oh, tu verrais comment il a fait ça. Par exemple, faut savoir pour les ralouf, là, les fourgons. Hein, ils appellent ça des ralouf maintenant, des petites tirelires, des petits cochons. Eh ben, ils font des castings, les mecs. Attention, c'est 20-30 mecs qui sont préemptés.
Avant braquage,
ils font un casting.
Les candidats au poste.
Ils leur filent un portable, machin. Et deux jours avant, ils disent tu balances le portable, t'es pas sur le casting, t'es pas pris, etc., etc. Vous voyez, ça a changé les mentalités. Hein. Mmh. Donc moi, je me tiens au courant de tout ça parce que bah, je suis écrivain, je suis romancier, il faut bien que j'ai de la nourriture. Parce que moi-même, je pratique plus rien. Moi, vous me voyez, je suis le type, mais hyper ordinaire, totalement détaché de tout ça. Moi, c'est par exemple une dame, une autre fois, je lui donne un billet de 10 euros, elle me rend sur 20 euros pour acheter le journal. Moi, je lui ai rendu, je lui ai dit, vous êtes trompé, madame. Vous êtes trompé. Ah ben, elle me dit, ah ben, c'est bien la première fois. Ouais, je suis plus honnête que tous les gens honnêtes, hein, en fait, en gros.
Élise Lépine, donc, on évoque là, effectivement, les vols par ruse, mais il y a l'autre aspect, c'est-à-dire qu'en prison, François est mis en cellule, compagnon de cellule Mehdi, qui est lui un cador du banditisme, qui a une cagnotte à Londres, qui a une maîtresse qui s'occupe de lui depuis l'extérieur, qui vient le visiter. Et c'est là où François va s'employer, comme il le dit lui-même, c'est la mort qui mange la vie, à dévorer, on peut le dire, la vie de Mehdi.
Oui, il va dévorer la vie de Mehdi, il va convoiter tout ce que possède Mehdi. Hein. On voit vraiment, là il y a cette nouvelle criminalité hein, qu'incarne Mehdi, avec ces gens rutilants qui ont tout à portée de main très facilement. Et puis il y a ce bandit à l'ancienne qui va justement ourdir des projets d'une violence inouïe. D'ailleurs, hein, on est complètement... complètement choqué par cette lecture, je pense, quand on avance. C'est intéressant ce personnage parce qu'on sent qu'il a deux visages quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il est très rusé, mais parfois il a l'air d'être un parfait imbécile heureux quand même.
Il joue à l'imbécile heureux.
Non, c'est un démon. Moi, j'ai retrouvé en moi, quand j'ai écrit, j'ai retrouvé, vous savez, je faisais des cauchemars pendant que j'ai écrit le livre, moi. Me réveillais le matin, mais j'étais persuadé que j'avais tué quelqu'un et que je l'avais enterré dans le jardin de ma grand-mère. Mais je pouvais pas, ma grand-mère, elle est morte quand j'avais 6 ans et le pavillon a été vendu à Savigny. Donc, vous voyez, mais j'étais persuadé pendant 10 minutes, un quart d'heure, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas tué quelqu'un quand même. Tellement je m'étais impliqué dans le personnage, hein. Ce qui donne une réalité vraiment forte, hein, au livre, je pense, que j'ai retrouvé en moi toutes ces tendances sordides qu'on a tous, hein. Il faut le savoir, il faudrait bien que les gens l'admettent et arrêtent de lire des niaiseries dans lesquelles ils ne peuvent pas projeter leurs pulsions morbides. Voilà. Et donc, ils restent en eux. Hein.
Ce personnage de François est un peu un composé de différentes figures qu'on connaît bien, Francis Saul, Michel Fourniret, que vous avez... Et ce qui est étonnant, c'est que bon, on va pas la totalement dévoiler. On peut quand même dire ce que c'est que les coccinelles sur les noyaux de cerises, Élise Lépine.
Ah bah oui, les coccinelles sur les noyaux de cerises. Mais alors, il a un don incroyable, ce personnage, quand même. Parce qu'au début, c'est carrément des graineries qui sculptent. Expliquez-nous.
Oui, c'est une histoire vraie aussi. C'est-à-dire qu'il y a un type qui arrive, et d'ailleurs je pense qu'il le fait toujours, à sculpter des combats d'éléphants sur un grain de riz. Je sais pas si vous voyez le travail de dingue. Donc j'ai pris ces choses-là. Mon personnage est construit, c'est un peu Frankenstein. Hein, il est construit avec plusieurs autres personnages pour qu'il ait une réalité encore plus forte. Parce que se mettre dans la tête d'un seul tueur, bon, le gendarme l'a fait, la Abgral, il l'a fait dans la tête du tueur. C'est pas très prenant. C'est bien, on suit bien Holm et tout ça. Mais moi, j'ai préféré assembler plusieurs personnages pour le rendre encore plus fou, plus dément, et m'impliquer avec lui. Et effectivement, donc, il sculpte des coccinelles dans des noyaux de cerises. Et c'est une histoire vraie. C'était comment il s'appelait je sais plus, un grand voyou qui sculptait, lui, des sabots dans des noyaux de cerises. Mais là, j'ai mis des coccinelles parce que je vous dis, je voulais coller à Pancol pour que les gens achètent mon bouquin. Mais,
voilà. Il fallait une créature, un petit animal attendrissant.
Oui, en plus. Hein.
On va faire une enquête auprès du lectorat, savoir si c'est pour ça que votre livre a été acheté. Alors, effectivement, ce personnage se dévoile. On voit son machiavélisme, la manière dont il retourne la situation, dont il joue un petit peu les pauvres gars, et dont il abuse de ce caïd du milieu, dont il s'empare finalement et de sa maîtresse et de l'argent. Mais bon, on n'en dit pas plus. Mais, et puis, apparaît là aussi tout son passé de violence et de criminalité, le serial killer. Mais là où le personnage devient véritablement effrayant et fascinant, c'est que vous tentez d'incarner ce qui serait pour lui l'idéal de la vie. Alors quand il est dans un RER, et il se pense que sa vie serait idéale si ça n'était qu'un immense voyage en RER, à la limite avec en regardant par la fenêtre, une espèce de grand moment comme ça, de grand déroulement. Et un autre moment, page 142, il dit « Moi, ce que j'aimerais, c'est que rien ne change jamais. » En définitive, tous ces personnages sont hantés par le temps. Le temps du détenu, de l'attente, la frustration, tout ce que le temps peut avoir de douloureux.
Ah oui, mais quand vous regardez Francis Holm, hein, le coup de sa montre cassée, vous savez que Francis Holm, il avait une montre arrêtée à une heure, comme dans le livre d'ailleurs, moi j'ai repris.
Ouais,
hein,
le personnage.
Et il était pris en stop, hein, on l'a appelé le retard du crime, et il demandait l'heure au mec. Si le mec lui donnait pas l'heure qu'il avait sur sa montre cassée, il le tuait. Donc là, déjà, on a un problème avec le temps qui est énorme, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai été fouillé dans cette dimension-là, hein. Moi, je m'intéresse beaucoup au temps aussi, parce que quand même, j'ai vécu plusieurs vies. Donc c'est très intéressant de voir comment on peut freiner le temps. Enfin, on peut pas le freiner, hein. Mais on peut, j'ai l'impression des fois qu'on peut avoir plusieurs vies et se ressourcer, et notamment par l'écriture. Moi, je me ressource beaucoup, je me calme et tout ça. Et donc sur le temps, c'est surtout par rapport à cette histoire de monde cassé. Ça m'a complètement fasciné et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, parce que là, l'autre, il est dément, hein, Holm, on est d'accord. Hein, mais quand même, qu'est-ce que c'est de demander l'heure à quelqu'un, et s'il te donne pas l'heure de ta montre cassée, tu le tues, quoi. C'est quand même vachement bizarre. Hein, c'est très intéressant à fouiller.
L'univers du milieu est confronté en permanence au temps. Quand on fait un braquage, c'est minuté. C'est même parfois seconde par seconde. Puis après, ouais, quand on se fait avoir, c'est 15 ans. Et là, on compte les jours. Donc le temps est toujours là. Et puis on attend en permanence quelque chose.
Bah, vous savez, la prison, il faut la prendre de travers, c'est-à-dire par la diagonale du fou, c'est-à-dire il faut pas s'intéresser à cette histoire de temps, sinon vous êtes mort. Si vous commencez à dire, mais putain, j'ai 17 ans, hein, je suis tombé à 17 ans et demi, moi, je vais sortir à 25 ans, vous savez même pas, à cette époque-là, quand on est jeune comme ça, c'est énorme, 6 ans. Donc je m'y suis pas du tout intéressé. J'étais avec mes copains, hein, dans la prison, donc on arrive même isolé, si vous voulez, vous avez de la solidarité, non, c'est, voilà, hein, vous recevez, moi j'avais mon pote Jacques-Yves Bordelais, qui est un grand criminel, qui me faisait envoyer 2 steaks de la cuisine à l'isolement, par exemple, vous voyez. Donc vous avez une solidarité, vous avez des copains, des amis et tout ça. Et comme je vous dis, j'ai repris mes études, je me suis évadé par les livres, j'ai travaillé énormément sur l'écriture pendant des années, ce qui m'a permis de
grandir. Là, vous avez un style dans ce roman à la première personne, c'est vraiment au couteau, c'est des copeaux, c'est comme si c'était des c'est un style écharpé.
Je pense que c'est un style, c'est ma façon d'écrire. Je pense que je l'ai travaillé énormément. Alors moi, quand on me dit, ah, qu'est-ce que t'écris bien? Ah, je dis, non, surtout dis pas ça. J'essaye de bien décrire. C'est très différent. J'essaye de bien décrire parce que, alors, j'ai fait beaucoup de scénarios, vous le savez. J'ai fait 3 longs métrages, je les chante au montage.
Parrain, dans une autre émission du cinéaste, ouais, et du,
voilà,
scénario.
Mais pour dire que l'écriture du scénario, j'ai écrit beaucoup de scénarios, m'a apporté énormément dans le sens où c'est un document technique. Vous devez décrire tout pour que l'équipe technique et le producteur disent c'est quoi le film, hein, avant de le faire. Donc, en plus, après, quand j'ai écrit, par exemple, Bleu de Chauve, je me suis lâché un peu, mais très peu. Vous voyez, comme un cheval qui a travaillé, qui est musclé, par le scénario, après, vous lui lâchez les brides, il court, c'est de la folie. Et donc, Bleu de Chauve, c'est ça. L'effet Bleu de Chauve, c'est 10 ans de scénario, 10 ans de travail de description pour apprendre à décrire.
Avec Anne-Marie Rassam,
Ouais. Ah oui, pour apprendre à décrire. Déjà, c'est pas facile, vous savez, hein, de donner à décrire. Et de mettre les dialogues qu'il faut, qui font progresser l'histoire. Pas des gnangnans et machin à la Lévy, là. Voilà, des vrais dialogues qui font progresser vraiment l'histoire de façon réaliste. Parce qu'on croit que c'est... Il y a des gens qui me disent, oui, t'écris comme tu parles. Ah, je dis, non, je parle comme j'écris. Voilà. C'est tout le contraire. Moi, j'ai appris à parler par rapport à mon écriture. C'est très différent. Et donc, voilà, c'est tout ce travail que je fais depuis justement mes premières écrits en prison.
Des coccinelles dans des noyaux de cerises, on peut dire qu'un document technique sur l'enfer, c'est envisageable, un roman de Nan O'Rousseau chez Buchet-Chastel.
I've been sending wishes to each new moon that you coming back to me real soon. I'm getting so disgusted. I'm trying something new. Since nothing that I wish about you ever comes true. I wish you'd find somebody new. I wish your love will prove untrue.
Ralph Williams, achat de Laurent Polleret pour notre playlist Mauvais Genre. Vous avez 6 minutes pour 3 livres et Nan O'Rousseau vient de vous dire, Élise Lépine, que c'était beaucoup, 6 minutes.
C'est beaucoup et peu quand on veut parler d'excellents romans.
Mais voilà.
Alors, je commence ces chroniques par Hervé Lecor, Prendre les loups pour des chiens, son dernier roman publié chez Rivage. Hervé Lecor, qui est aussi l'un des génies du polar contemporain. Vous êtes d'accord avec moi, François ?
Tout à fait.
On a déjà parlé. Il a cette faculté de passer d'époque en époque. Dans son dernier roman, son précédent roman, Après la guerre, on était à Bordeaux dans les années 50. Cette fois-ci, nous sommes en Gironde, époque contemporaine. Alors, on est avec Franck, qui est un très jeune homme, qui sort de prison. Il a été coffré pour un braquage, lui aussi. Braquage diligenté par son frère. Un malfrat qui, lui, s'est pas fait pincé par la police et qui est en ce moment en Espagne en quête d'un nouveau mauvais coup. Alors Franck est hébergé par la compagne de son frère Jessica, une femme sensuelle, séduisante, vénéneuse et venimeuse également. Jessica vit chez ses parents, alors là deux vieux débris, deux déglingués qui trempent dans des affaires louches également. Ils habitent dans une maison très glauque, donc on est dans un univers très noir. Mais il y a une petite fille, Rachel, la fille de Jessica, qui est mutique, sans doute traumatisée. Ça nous étonne pas trop quand on voit l'univers dans lequel elle évolue, mais c'est le seul éclat de lumière dans ce livre. Alors Franck hérite de deux cadeaux empoisonnés, sa copine, la copine de son frère Jessica, et puis les problèmes d'argent de son frère également, qui s'est barré en lui laissant une dette et des problèmes avec toute la population infréquentable de ce coin de campagne. Donc on a effectivement des gitans, des toxicos, des dealers qui vont lui tomber sur le coin du paletot. Franck doit réparer les pots cassés. On s'enfonce dans l'intrigue, un peu comme dans des sables mouvants. C'est visqueux, c'est dangereux, c'est nauséabond. Mais il y a cette petite fille, Rachel, qui va donner un sens à tout ça. C'est un peu la lueur d'espoir dans ces ténèbres. Une raison pour laquelle se battre et peut-être sortir de ce marasme. Donc c'est un sublime, vraiment... roman noir de cette rentrée de janvier.
Voilà, donc Hervé Lecor, c'est Hervé aux Lecor. Éditions Rivage.
Ensuite, donc Victor Delarbol chez Actes Sud, Actes Noir. Donc là, c'est un spécialiste des beaux titres également. Hein. La veille de presque tout, on avait eu La Maison des Chagrins, on a eu La Tristesse du Samouraï, Toutes les vagues de l'océan. Maintenant, c'est La veille de presque tout. Alors, c'est pas écrit de façon chronologique. Victor Delarbol est un auteur intelligent, un peu espiègle, qui mélange les journées d'un même été. Donc, pour essayer de remettre les choses en l'ordre, je vous résume brièvement l'histoire. Donc on a d'un côté l'inspecteur Ibarra qui a arrêté et tué un assassin d'enfants il y a quelques années, qui est hanté par cette arrestation. Et puis on a une femme qui arrive dans un hôpital complètement défigurée, violentée, et elle ne veut parler qu'à Ibarra. Donc en fait, cette femme, pour revenir un petit peu en arrière, elle a perdu un enfant il y a quelques années et puis elle a fui son mari, sa famille pour se réfugier dans un coin paumé au fin fond de l'Espagne où elle va rencontrer des personnages qui vont tous lui raconter leur histoire. Alors on va croiser dans ce roman un homme hanté par les geôles des prisons argentines, un salaud de la guerre des Malouines, un homme qui fut victime quand il était enfant des exactions commises par l'armée américaine en Allemagne, et puis un jeune homme dans l'Espagne contemporaine que sa meilleure amie va pousser au crime, et on comprendra les raisons pour lesquelles il se produit ce genre de situation dans lesquelles il est. À la
fin du livre. Donc tous ces personnages vont vers un dénouement terrible. Dell Arbol, il faut savoir qu'il a été séminariste, il a été flic. C'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions sur le bien et le mal. Ça le hante complètement. Il connaît aussi beaucoup de choses sur le bien et le mal. Il est devenu auteur de romans noirs pour essayer de comprendre la nature humaine.
Il a appris que Dieu était mort, il est devenu flic.
Il est devenu flic et puis finalement il est devenu romancier. Comme chez Hervé Lecor, comme chez vous aussi un petit peu, l'enfance est au cœur de ces romans. La grande théorie de ce livre, qui est très poignant, c'est que quand on fait du mal à un enfant, on crée un monstre et que l'histoire se répète à l'infini. L'histoire, le drame personnel et le drame collectif, l'histoire de chacun et puis l'histoire avec un grand H aussi. Ça, c'est une des obsessions de Victor Dell Arbol.
Et on termine par donc un auteur du fleuve qui
n'est
plus noir, mais qui est noir à l'intérieur.
Nicolas Maleski, Sous le compost. Alors là, on est moins polar, hein. C'est le moins glaçant des trois livres dont on parle aujourd'hui. En chronique, c'est une espèce de comédie de mœurs un peu déjantée, très noire quand même. Alors Franck aussi, hein, toujours un Franck. Et Gisèle vivent à la campagne, ils sont mariés. Lui est homme au foyer, elle est vétérinaire. Tout va bien dans leur vie, ils mangent bio, ils ont leur compost, ils ont leurs deux enfants. Jusqu'à ce que Franck apprenne par lettre anonyme que sa femme le trompe. Et donc ça ne déclenche pas chez lui une rage ou un désir de violence ou de vengeance, mais plutôt une curiosité. Il se dit, et si moi je trompais ma femme également ? Alors, il commence à coucher avec la voisine. Mauvaise idée de prendre le chemin de la luxure puisqu'il se retrouve dans des situations complètement scabreuses, éventuellement dangereuses. Par ailleurs, dans ce roman, le livre est aussi hanté par la disparition il y a quelques années d'une petite fille qui n'a jamais été élucidée. On va découvrir à la fin de ce texte qui a fait du mal à cette petite fille. En attendant, Nicolas Maleski passe au peigne de fer et vraiment il étrit cette petite société de province avec ses bobos, ses beaufs, ses écrivains ratés, ses perfidies, ses hypocrisies, ses secrets honteux, ses alliances étranges. C'est à la fois très noir et en même temps totalement jouissif.
Merci Élise Lépine pour ces trois recommandations noires et on termine cette émission bien évidemment. Oui, Nano Rousseau.
Elle a fait ses six minutes.
Ah, non, c'est bravo.
Quelle satisfaction.
On la salue et on termine cette émission avec bien sûr Christophe Beer.
Décédé le 21 décembre 2016, Angelo Di Marco fut l'illustrateur emblématique du fait divers d'après-guerre. Son père, un Sicilien qui avait fui le fascisme et gagnait sa croûte en peignant des publicités sur façade, lui transmet la passion du pinceau. À 18 ans, Di Marco place son premier dessin humoristique. Suivent des bandes dessinées au trait et des feuilletons illustrés pour toutes sortes de journaux. En 1955, il est engagé dans Radar, grand hebdomadaire à sensation qui mise sur les dessinateurs, toujours là au moment crucial, immortalisant le climax du drame dans le meilleur angle. Les photographes ne peuvent rivaliser. Après s'être exercé dans les pages intérieures, Di Marco succède à Rino Ferrari, dont il admirait les unes mouvementées et hyper réalistes au lavis. Il devient aussi virtuose que le maître, réalisant toutes les couvertures de Radar de 1959 à 1962. Il affine son style, maîtrise des cadrages aux contre-plongées impossibles, renforce les contrastes et fige les physionomies déformées par la peur et l'angoisse plus que par la douleur. Car Di Marco refuse la facilité sanguinolente. La nature même de mes dessins, explique-t-il, protège la victime puisque j'arrête le geste du meurtrier juste avant qu'il ne se produise. La victime reste ainsi sauve pour la postérité. Mais c'est une éternité d'angoisse, monsieur Di Marco, c'est bien pire. Quand l'hebdomadaire détective l'engage en 1968, la dimension sadique de son style s'épanouit sans limite. Les drames exploités par Radar étaient ancrés dans le roman populaire, spectaculaire et mélodramatique, parfois exotique, exploitant la fatalité d'une catastrophe mécanique ou naturelle, le danger d'une bête féroce. Avec Détective, puis Qui Police et le nouveau Détective, l'artiste s'abandonne au sordide, s'appuie sur une actualité plus violente, se délecte dans la folie meurtrière. Il ne précipite plus les victimes du haut de la grande roue défectueuse, elles tombent dans le gouffre des perversions les plus aberrantes. Di Marco est donc toujours le maître des abîmes vertigineux. Drame de la jalousie, abus sexuel, il régale le voyeurisme crapuleux du lecteur qu'il place en position d'agresseur. Il est toujours question de peur, mais aussi de rictus de haine et de jouissance, de regards luisants de pensées secrètes. Le dompteur jette sa maîtresse aux fauves. Des clochards cannibales dévorent une femme. Il électrocute sa femme avec les fils dénudés de l'aspirateur, frappé par son mari avec un buste de Napoléon. La dramatisation implacable de Di Marco se savoure comme un condensé d'humour macabre où pointe le dérisoire et l'absurdité de la condition humaine.
Voilà, merci Christophe. On collectionnait les couvertures de Détective.
Oui. Vraiment, j'en ai vraiment. C'est très très bien fait, c'est extraordinaire. Les défenestrations où un type renversé par un autobus, etc. C'est tellement fort, tellement puissant. Voilà.
L'hommage de Christophe Beard, donc Angelo Di Marco. Merci, Nano Russo.
C'est moi qui vous remercie.
Ce soir, l'invité. Genre, vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. Prochain film, prochain livre.
Alors, le prochain film, Jour de pêche, donc en hommage à Jacques Tati. Que je suis au montage là, mais j'ai pas de distributeur ni de producteur, donc avis.
Un homme libre.
Voilà. Non, très difficile de travailler dans ces conditions. Donc avis aux amateurs. Hein.
Voilà. Et prochain livre, on a déjà.
Prochain livre, donc La Serpe Rouge, l'affaire Girard, qui sortirait vraisemblablement en septembre sur l'affaire Girard. Donc Georges Arnaud, l'écrivain du Salon de la Peur, absolument, qui a été accusé d'avoir assassiné toute sa famille en 41 dans le château familial à Escoir en Dordogne. Voilà.
Très bien, bah écoutez, rendez-vous donc à Mauvais Genre pour ce prochain titre. Nano Russo, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pascal Bénard, Claire Martin Dugas, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Élise Lépine, Christophe Beard et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien évidemment samedi prochain à la même heure et on vous parlera cette fois de Kurosawa avec une très riche actualité de sorties DVD et de sorties salles. D'ici là, on ne quitte évidemment pas l'antenne de France Culture et l'on retrouve pour des sujets très noirs Amaury Chardot pour Métronomique. Bonne nuit à tous.